En 1027, un cœur rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, la voix fout de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer futur, la voix tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. Je dis blousé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, la voix fout de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, la voix fout de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec François. François, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons deux invités, mais avant de les présenter, je vais faire quelques annonces. Alors, il y a une édition, une première édition d'un festival à Villetaneuse, les 25, 26 et 27 septembre 2020, qui s'appelle Plein Champ, cinéma et écologie urbaine. Et donc, ils ont un site internet, c'est autrechamp.fr et c'est à Villetaneuse. Et je voudrais vous parler de la marche des sans-papiers qui est partie samedi dernier et qui doit, le 17 octobre, être à Paris.
Elle est partie,
marcher, elle est partie de Marseille avec 200 personnes. Elle part d'un peu partout en ce moment. Et les sans-papiers marchent sur l'Élysée et ils y arrivent le 17 octobre. Donc, il y a une cagnotte pour les soutenir sur le pot commun. Je vous encourage, chers auditeurs, à les soutenir. Merci.
Et ils seront accueillis par Macron qui va leur donner des papiers, c'est ça? Non, à l'Élysée.
tu rêves. Tu rêves, François. Tu rêves.
J'ai rien dit.
Bon, alors nous allons passer à nos invités. Yannick Argoat, bonjour.
Bonjour.
Serge Dignazio, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler des gilets jaunes. Alors, j'ai un cadeau pour vous deux. Il s'agit du cahier de vacances des gilets jaunes, qui est fait par deux membres de la Fédération anarchiste, Leïla Ichéri et Stéphane Polsky. Voilà, un exemplaire pour
merci,
toi,
merci.
Yannick. Un
merci.
Exemplaire pour Serge. Merci, merci. Alors, je vous reçois parce qu'aujourd'hui sort en librairie On est là, de Serge Dignazio.
Ok, allez, donc c'est...
On
quel
est là.
Syncrétisme.
Mais oui, hein, avec un point d'exclamation. Un album de photos sur les gilets jaunes. Et Serge, je vais laisser aux éditions Adespot. Yannick est ton éditeur. Je vais lui laisser présenter Adespot, qui veut signifie animal sans maître en grec.
Oui, ça vient d'Adespotès. Oui. Le nom est en français Adespot. Le A privatique et le despote. On sait ce que ça veut dire. Et ça désigne effectivement... en Grèce, les animaux domestiques qui n'ont pas de maître. Voilà, et c'est pour ça qu'on a choisi comme symbole de la maison un petit chat qui marche sur ses pattes avant, parce qu'on ne voulait pas d'un chat anthropomorphe, on voulait d'un vrai animal sans maître.
Voilà. Parfait. Alors, comment tu as rencontré Serge? Et comment est né ce projet de faire un second album? Parce que Serge Dignazio a sorti un premier album, qui est vendu 6 euros à la librairie Publico, la librairie La Fédération Anarchiste, 145 rue Amelot, dans le 11e, ouverte tous les jours de 14h à 19h30 et le samedi de 10h à 19h30. Serge, la rencontre avec Yannick, qui vous a présenté l'un à l'autre?
Bon, alors, je vais peut-être me présenter très rapidement. Hein.
D'accord.
Pour me situer un petit peu, hein, c'est très rapide. Donc, je suis ajusteur de métier. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans une usine aéronautique. J'étais ajusteur. Au bout de 20 ans, j'ai été licencié, licenciement économique. Et j'ai fait une reconversion pour être agent du patrimoine en bibliothèque municipale. Donc, j'ai fait 20 ans ajusteur, 20 ans bibliothèque. Donc, c'est un peu atypique comme
parcours.
Beaucoup de gens ne comprenaient pas. C'est ma reconversion. Et donc, depuis 4-5 ans, je suis à la retraite. J'ai pris ma retraite à 60 ans, pile. Et je me consacre à ma passion de toujours, la photographie sociale. Je dis la photographie sociale. Donc j'ai photographié, dès l'âge de 18 ans, les usines, mes collègues. Donc je développais mes photos à l'époque en noir et blanc. Ensuite je suis passé au numérique, hein, comme beaucoup. Et donc, encore une fois, j'ai photographié les grèves, les manifestations, tout ça. Et quand il y a eu les gilets jaunes, au début, je ne savais pas, parce que je suis sur aucun réseau social. Mm-hmm. Donc, je dis, tiens, il y a une manif, c'est j'y vais. Moi, ça me semblait, c'est naturel. J'y suis allé, c'était porte-maillot, donc c'était la première manif. Hein.
17 octobre 2018.
Ouais, le 17 octobre, et c'était assez bizarre, parce que moi qui étais habitué aux manifs République, Nation, République, Bastille, Nation, un peu chemin de Compostelle, hein, on y allait laisser les yeux fermés, hein. Et là ça partait dans tous les sens. Là, et puis comme on dit, c'était des primo manifestants, je sais pas trop ce que... Et donc il n'y avait pas cette tradition de manifestation. On marche tranquille, on part d'un point, on arrive à un autre, et puis hop, on se dit au revoir et on rentre chez soi, dans son appartement, et ensuite c'est dans son usine. Là, ça partait dans tous les sens. Et donc, j'étais un peu, comme je dis toujours, c'était un peu la sidération, et là, j'ai pris assez peu de photos, parce que j'étais tellement sidéré de voir les gens partant dans tous les sens. On va à gauche, on va à gauche, on va à droite, on va à droite. On s'est approché pour ça à 50 mètres de l'Elysée.
Oui.
C'était complètement hallucinant. Il y avait un petit quart de CRS. Je pense que même les CRS étaient étonnés. Parce que les gens, il y en a qui étaient venus avec des grosses motos, tout ça. Mais c'était la fête. Il y avait un esprit très très bon enfant. Donc j'ai photographié. Le samedi après, j'ai recommencé. Et tous les samedis, j'ai photographié. Et on a lié des liens, c'est comme ça. Et donc à l'acte 8, pour ma rencontre à l'acte 8... Il y avait le fameux Christophe Détinger.
Ah oui. Alors, il faut le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas de mes deux auditeurs.
Oui, c'est le fameux boxeur qui a fait reculer la police. Et ça aussi, ça a été pour les forces de l'ordre, ça a été un outrage, c'est sans nom.
Un traumatisme.
Un traumatisme. Merci. Ah, moi, j'étais à 2 mètres de lui. Alors, on l'a tellement s'est calomnié, comme, c'est comme quoi il avait des gants plombés, des trucs. Mais pas du tout.
Non.
Il est boxeur de métier, donc il a quand même...
La technique.
Il a la technique. J'ai vu, moi, j'y connais rien en boxe, mais j'ai vu qu'il avait une sacrée technique, le gars. Hein. C'était un peu Rocky. Hein.
Je pense que, excuse-moi de t'interrompre, au passage, on peut quand même saluer les magistrats et les juges qui, par, en toute indépendance, l'ont condamné au maximum.
Ah oui, oui.
Oui, un petit coup de chapeau en passant. Ah
oui. Oui, si on veut.
Mais c'est du deuxième degré, Mariama.
Oui.
Si on veut aussi, est du deuxième degré, même du troisième degré, oui. François.
Donc, je l'ai pris en photo, j'ai gardé ces photos, je les ai publiées, c'est sur mon site et Flickr. Et j'ai vu qu'un livre était paru sur lui, d'Antoine Payon, qui est journaliste, grand reporter, c'était...
À la Croix.
Cœur de boxeur, à la Croix. Mmh. J'ai eu son bouquin, wow, c'était une révélation. J'ai contacté Antoine Payon, je lui ai dit, bah, écoute, votre bouquin, il est super, taratata. Enfin bref, j'étais vraiment pour le remercier, parce qu'il remettait un petit peu la vérité en place. Il m'a dit, écoute, tes photos, elles sont superbes aussi, tu devrais en faire un bouquin. Bah, je lui ai dit, mais moi, écoute, les bouquins, je travaille dans le livre, enfin, je travaillais, c'est dans le livre, mais dans l'édition, je connais personne, hein, je sais pas comment. Il dit, écoute, je fais une réunion aux médias, tu viens et puis on va en parler. Et je pense que c'est là que tu étais, Yannick, et après il y a eu...
voilà, une connexion.
Je te laisse la suite pour...
Alors Yannick après.
Bah, la suite c'était relativement simple. Effectivement, on s'est retrouvés, moi un peu par hasard, invité par un autre biais à cette émission sur les Gilets jaunes. Moi, pour parler un petit peu du traitement médiatique du mouvement, enfin, et donc je découvre à cette occasion Serge. Le lendemain, je vais voir sur son site Flickr les photos, et puis voilà, j'ai un coup de cœur vraiment pour son travail, et je crois que je t'appelle ou je t'écris en disant, voilà, est-ce que le projet d'un livre, ça t'intéresserait? Et ça s'est fait comme ça, avant même que Antoine m'en parle. On avait... moi et Emmanuel Jay, avec qui on anime les éditions Indespot, parce que je suis pas tout seul, elle fait une très grosse partie du travail avec moi. Voilà, on a tout de suite proposé à Serge l'idée d'un livre. Voilà, et puis voilà, de fil en aiguille, de discussion en discussion, on arrive aujourd'hui avec la sortie en librairie de On est là, et je crois qu'on est enfin, nous, on est très, très, très contents de ce livre. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que qu'est-ce qui nous a marqué, nous, immédiatement, c'est la photographie sociale, c'est-à-dire vraiment l'idée de pouvoir rendre compte d'un mouvement qui nous importait beaucoup, nous, hein, qui est pour nous un mouvement historique, un mouvement social historique, qui marque quelque chose de très profond dans le paysage politique français, avec une interaction d'un grand travail de photographie. Voilà, les photos sont magnifiques. C'est pas simplement un témoignage politique, c'est un vrai travail de photographe, un vrai regard très très singulier, et qui rend compte de ce qu'il y a de singulier dans ce mouvement. Ce que Serge le disait, beaucoup de primo-manifestants, beaucoup de gens pour qui c'est le premier accès à la manifestation, à la prise de parole politique, etc. Je crois qu'on le voit dans ces images. De par son expérience très ancienne, justement, de photographier les mouvements sociaux, Serge a une pratique, un regard, une distance particulière avec les gens qu'il photographie, et ça transparaît très fortement dans ce travail. Je pense qu'on n'aurait pas fait le livre si c'était un simple témoignage journalistique. Nous, on est, la maison d'édition, un peu à l'interaction entre la création artistique sous toutes ses formes et la politique. C'est un peu nos deux pieds. Voilà. Mmh. Et là, on a un livre qui est exactement sur les deux jambes de la maison d'édition, qui est à la fois un manifeste très fort et en même temps un travail artistique très fort. Et on a essayé de faire le livre vraiment pour qu'il reste exactement sur cette ligne-là. Donc le livre est aussi accompagné d'une dizaine de textes, de témoignages, de témoins et d'acteurs de ce mouvement. On ne voulait pas faire un livre de texte avec illustration de photos. C'est vraiment un livre de photos dans lequel s'inscrivent très précisément des textes avec des témoignages qui sont autant des témoignages de gens un peu intellectuels qui prennent un peu de distance, de responsables politiques, on va dire, aux syndicalistes, que de témoins, hein, et de gilets jaunes eux-mêmes. Voilà. Donc on a essayé de garder cet équilibre.
Alors, vous avez fait une souscription pour le livre. Et je me rappelle que je prenais un café avec ton éditeur, Serge, quand on a vu sur BFM passer la souscription. On était scotchés de rire. Parce que BFM, c'est pas vraiment la chaîne d'information la plus gilet jaune friendly, on va dire.
Oh si, quand même, moi je trouve que, excusez-moi, moi j'ai quand même apprécié BFM TV, parce que par exemple, chaque fois qu'il y avait une voiture qui brûlait, elle repassait en boucle, si bien que les gens en province croyaient qu'elle avait 300. Donc merci à BFM pour leur impartialité.
Alors,
ah ben là, pour BFM, moi aussi, ça a été un choc et une surprise. Parce que j'ai aucun contact. Hein.
Ah oui.
J'ai aucun contact avec BFM, j'ai aucun contact, donc ça a été une surprise. Je ne sais pas pourquoi, je suis passé au travers des mailles du filet.
De la ligne éditoriale.
Voilà. Et en plus, c'est le journaliste, il dit quelque chose de très sympa. C'est sur le mouvement, il dit, je pense, à un moment donné, il dit, ouais, un mouvement sympathique, ou quelque chose comme ça.
Il aurait
chroniqué que le livre qui n'était pas paru. Il faut savoir aussi que le livre n'était pas paru, mais il pouvait quand même se permettre de dire que... On sait bien, il disait qu'il était bien. Donc dans ces cas-là, on disait...
Ouais, c'est sympa.
C'est sympa. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un des mystères.
Oui, ça fait partie des mystères un peu de l'information qu'a ça fait. On a lancé un petit communiqué de presse pour annoncer la souscription, puisque le livre, étant un livre de photos, ça livre un peu plus cher que d'habitude pour une petite maison d'édition comme la nôtre, c'est un peu plus difficile à financer. Donc on avait imaginé lancer, comme ça se fait beaucoup quand même dans l'édition, une petite souscription. Et on avait publié un petit communiqué de presse et ça a dû tomber sur le bureau de ce journaliste qui a cru que le livre était publié alors que c'était l'annonce d'une souscription, etc. Et il y avait l'occasion d'un petit reportage très simple. Mais c'est vrai que ça nous a bien fait marrer sur le moment, parce que c'est pas exactement la ligne éditoriale de la chaîne.
Alors, le livre, les bénéfices de la vente du livre sont pour la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi, Serge ?
Je crois que c'est la première chose que j'ai dit à mon éditeur, à Yannick. Je veux aucun droit. C'est mes photos, et puis en même temps, j'ai l'impression qu'elles ne m'appartiennent pas. Ça appartient au mouvement. Je serais un peu gêné de
faire de l'argent là-dessus.
Ouais, c'est vrai qu'il va se vendre à des millions d'exemplaires. On est immensément riches.
Grâce à Radio Libertaire.
Voilà, non, mais j'étais un peu. Au départ,
c'est ça le danger.
C'est gêné de toucher un euro. Donc j'ai préféré, dès le départ, mettre ces choses au point avec Yannick. Je lui dis, bon, ok. Mais. Tous les droits d'auteur du livre iront à la LDH. LDH que j'ai vu pratiquement sur toutes les manifs, qu'on fait des communiqués corrects, on a vu très très corrects, ils étaient toujours là, même dans les moments très très chauds, ils étaient là. Donc naturellement, j'ai trouvé ça normal.
Voilà. Alors, la LDH a été fondée il y a près de 120 ans sur l'affaire Dreyfus, pour mémoire, et ils sont observateurs, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour cartographier tout ce qui n'allait pas. Et donc, tu as pu les observer et voir leur impartialité.
Donc, ils étaient toujours là. Je dis, c'est dans les mouvements, c'est très très chaud. Il y en a qui ont été arrêtés, je pense.
Tout à fait.
Qui ont été sématraqués. Hein, au fur et à mesure que la répression augmentait.
Mais les violences policières, on en parlera en troisième
d'accord,
partie.
Non, mais pour ces signalements.
Ils ont fait des communiqués réguliers.
Oui,
chaque samedi. Pour témoigner de la violence.
Voilà. Alors Yannick, le livre est vendu à...
Le livre est vendu à 25 euros. C'est un livre qui fait... C'est déjà un livre assez conséquent, 24 par 24, un livre photo. C'est assez cher à le fabriquer, c'est beaucoup plus cher qu'un livre normal. Mais on a tenu à faire un prix le plus accessible possible, parce qu'évidemment, on n'allait pas faire un livre sur les gilets jaunes, vendu comme d'habitude, quand on parle de livre photo, aux alentours de 45-65 euros.
Tout à
fait. Voilà, on a essayé de maintenir les coûts le plus bas possible, et la souscription qu'on a faite et qui a relativement bien marché nous a aidé comme ça à financer les coûts les plus bas possibles.
Alors, un peu de promotion pour toi Yannick, quelque chose de relativement bon marché, c'est ton DVD, le dernier DVD que tu as fait avec Balbastre, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est vendu sur le site de Acrimed, acrimed.org, dans la rubrique boutique et la sous-rubrique DVD, 18,40 €. Tous ceux qui n'ont pas vu ce DVD, je vous conseille de le regarder. C'est un moment jubilatoire. Et il n'est vendu que 18,40 €. Quand j'ai vu le prix, quand il est sorti, je suis allée le voir au cinéma plusieurs fois, avec plein d'amis. J'ai écouté l'interview de ton producteur de l'époque, qui expliquait comment il en était venu à produire un film pareil.
Jacques Kerchner, oui.
Voilà. Mmh. Et qui a fait aussi, entre parenthèses, qui a été le producteur d'un film qui nous est cher, qui est celui de Louise Michel, fait par Solveig Anspa, mmh, sur la période où Louise Michel est déportée en Nouvelle-Calédonie. On est quand même le groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste, dans l'émission Pas de quartier sur Radio Libertaire 89.4 FM. Donc on tenait à le rappeler. Et donc ton DVD est toujours vendu.
Ben, les copains d'Acrimed ont dû le stocker, je ne sais pas comment, parce que le local est tout petit. Alors depuis le temps qu'ils en vendent, je ne sais pas où ils planquent les exemplaires. Mais ouais, non, ils sont très fidèles à ce film. Il faut aussi reconnaître qu'il n'y a pas eu énormément de travail de documentariste sur la question des médias d'information en France. Donc le film fait toujours un peu actualité, même si maintenant il a quand même plus de 10 ans, et donc sur certains aspects on peut dire qu'il a vieilli, mais ce qu'il dénonce est toujours d'actualité.
Ah, tout ce qu'il dénonce est toujours d'actualité. Sur la question des gilets jaunes, Serge, est-ce que tu as eu le sentiment sur le terrain que les médias faisaient leur travail, certains médias?
Alors faire leur travail.
Oui, justement.
Là, je suis un peu gêné, hein, parce que je ne vois pas beaucoup de médias qui...
Qui ont vraiment fait leur travail.
Je veux aussi faire une petite mise au point. Je ne suis pas représentant des Gilets jaunes. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas photographe professionnel. Hein. Je parle en mon nom. Hein.
Oui.
Non, mais...
Et c'est la raison pour laquelle on t'a invité.
Donc, c'est pour les auditeurs qui me situe encore un peu. Donc le travail des médias, au début, ils étaient sur le terrain, c'est vrai. Mmh. Mais ensuite, quand les gilets jaunes, les manifestants, quand je dis les gilets jaunes, c'est un terme c'est générique, ont vu le résultat sur les écrans télé,
oui,
ils étaient un peu, ils disaient, tiens, c'est marrant, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait. On sent qu'il y a quand même une petite déformation. Quand tu parlais, c'est de la voiture est brûlée, on voit une voiture brûlée qui passe en boucle, mais par contre, on voit pas les milliers de manifestants et manifestantes, surtout, on reviendra aussi, c'est sur les femmes.
Oui, notamment sur l'affaire Leger, Geneviève Leger.
On les voit pas, on voit que la poubelle qui brûle, on voit que la vitrine de chez Cartier qui est tombée, et tout le reste, on le voit pas. Donc c'est sûr qu'ils ont été un peu très méfiants, mais il y en a même qui sont fait un peu se molester, insulter, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que le travail des médias, de mon côté, il n'a pas été très bien fait, je pense.
D'accord.
Sauf que, bon, encore une fois, il y a Acrimed qui faisait c'est des comptes rendus, qui étaient vraiment très corrects là-dessus.
Alors, Acrimed, c'est l'acronyme de Action Critique Média, dont le site internet est acrimed.org, et qui critique les médias, mais ça depuis 1995. Depuis les manifestations contre Juppé,
oui.
Ils avaient déjà pointé le parti pris des médias, et ils avaient décidé de s'ériger contre ce parti pris. Et ils font un travail remarquable. Ils ont un magazine qu'ils éditent tous les mois. Tous les trimestres, pardon. Merci Yannick. Et ils ont un site internet qui est formidable.
Et le magazine s'appelle Média Critique.
Oui. Média Critique, voilà,
exactement. Sur abonnement, et on le trouve aussi en librairie.
Donc, la raison pour laquelle, Serge, on t'a invité, le groupe Louise Michel, c'est qu'on a compris, avec la souscription et avec la caution de Yannick Kergoat, quand même, qui est un monument dans la production, que tu allais avoir vraiment le témoignage au plus près et le témoignage le plus fiable possible sur les Gilets jaunes.
Plus fiable, c'est mon témoignage. Hein. Autre chose, je vais revenir à ta question. Au sujet de mes photos, savoir que je donne mes photos. Je ne vends pas mes photos, ils sont en libre accès. Et donc ça a aussi fait que les Gilets jaunes étaient très contents. Je m'étais fait une petite carte de visite, mm-hmm, avec mon adresse email. Je dis voilà, je te prends en photo, mais si tu veux avoir la photo, tu me contactes et je t'envoie tout le reportage de la journée. Et là, ils étaient très, très étonnés. Ils me disent, ah bon, tu donnes tes photos? Je dis, ben oui, je donne mes photos. Je ne suis pas journaliste. J'ai le luxe, j'ai le grand luxe de faire ça pour moi. Bon, je suis à la retraite, je touche ma petite retraite, je ne vais pas me faire, c'est du fric, encore une fois. Donc, je te donne mes photos, tu en fais ce que tu en veux. Tu sais que c'est du noir et blanc. Ils étaient étonnés. Et donc, il y a eu un sentiment de confiance qui s'est installé depuis 2 ans. Et donc là, j'ai vraiment aucun problème pour les prendre en photo. Voilà. Ça aussi, elle a signalé que je donne mes photos et je les distribue aussi à certains médias comme à Bastamag.
Oui.
Bastamag, c'est l'âge de fer, des médias qui, à mon avis, sont très corrects, qui ont rendu compte c'est du mouvement d'une façon très correcte.
Ouais. Et Bastamag.org lance une souscription pour se refinancer, comme chaque année. Et donc, je vous encourage à les soutenir.
Acrimed aussi.
Acrimed aussi.
Il y a une souscription en cours.
Ouais. En cours. Serge, au cœur de l'action, est-ce que tu as jamais eu peur ?
Au début, j'étais un peu... j'étais étonné. Et puis très vite, j'ai eu peur.
Ah.
Non, il faut avouer qu'on a peur. Et puis la peur, ça a fait monter. C'est l'adrénaline, comme on dit. Donc, parce que quand j'ai vu la... Comment dire, l'augmentation, c'est de l'armement, c'est de la police, les LBD, les tonfas, les canons à eau, toutes ces... et puis le contact avec les forces de l'ordre.
Mm-hmm.
Donc, et puis la violence de la police contre les manifestants, et les violences des CRS contre les femmes, sans discernement. Donc ça a été surprenant. Hein. Moi, ça m'a surpris, mais c'est pas nouveau. Hein. Apparemment, c'est les violences policières. Mais j'ai eu peur. Hein. Donc, j'ai été assommé une fois. Bon, le coup de ton face est dans les côtes en passant par un CRS en disant on t'a vu, hein, toc, en passant un petit coup. Et puis, les lacrymogènes qui, à mon avis, ont changé le. C'est le produit à l'intérieur. Je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas un chimiste, mais c'est hyper violent. Hein. Ça te stoppe, beaucoup de gens vomissaient sur place, ça te plie en deux.
Hein. Il y a beaucoup d'études là, qui commencent à sortir sur les problèmes de santé liés à l'absorption des gaz lacrymogènes, notamment sur les femmes enceintes, etc.
Voilà, oui.
Il y a des études qui sortent là. Et effectivement, il semble qu'ils aient changé la composition chimique du gaz, enfin du produit qui est diffusé par ce biais-là. Quoi.
Et la peur existe, hein, quand on voit à côté de soi quelqu'un qui a son œil crevé, qui est en sang, on se dit, on a très peur. Quand même.
Surtout que tu n'es armé que de ton appareil photo.
Oui, j'ai un casque. Au début, je ne mettais pas de casque. Maintenant, j'ai mis un casque. Et puis, j'avais mis aussi un gilet, c'est une petite anecdote, un gilet de cyclocross sous mon parka, histoire de me protéger d'éventuels problèmes. Et j'étais arrêté sur les Champs-Élysées par les CRS. Et j'ai passé 4 heures en garde à vue. Comme quoi, c'était un gilet offensif.
Ah bon ?
Donc, ils m'ont emmené dans un car tout seul, 4 heures. Je suis passé devant le commissaire pour faire le procès verbal, tout ça. Il me dit, mais pourquoi vous êtes là ? Je lui dis, bah, écoutez, vous allez me le dire, parce que je sais pas. Et il voit sur le compte-rendu du CRS, gilet offensif. Il me dit, qu'est-ce que c'est qu'un gilet offensif ? Je lui dis, écoutez, je ne sais pas. Il voit mon truc à 20 balles, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est du n'importe quoi !» Il me dit « Allez, séparez-vous !» Donc je suis quand même resté 4 heures. Bon, ça va, c'était en fin de manif. Mais on se dit qu'il peut y avoir eu des milliers d'arrestations comme ça.
Tout à fait.
Pour des sujets. Après, on dit « Ouais, en fin de journée, il y a eu 3000 arrestations. » Moi, je faisais partie de ces 3000 arrestations.
Pour faire du chiffre.
Voilà, c'est pour faire du chiffre. C'est une petite anecdote.
Et éviter que les gens reviennent le samedi prochain. Et sans compter toutes les arrestations préventives, c'est-à-dire on interdit aux gens d'aller manifester.
135 euros à chaque fois. Le 14 juillet, tu avais un ballon jaune. J'ai vu un ballon jaune, tu as 135 euros d'amende. Ça fait mal, le ballon jaune. Hein.
Très mal.
Et puis maintenant, on est fouillés. Les manifestants sont fouillés à la sortie.
Systématiquement.
On ouvre les sacs pour sortir de la manif. Quand tu arrives à sortir de la manif, ils te fouillent. Ils sont obligés d'enlever tout ce qui est jaune sur toi. Il y a des manifs où les gens, pour aller aux toilettes... Non, vous restez dans la manif.
On a vu récemment là, un témoignage sur les réseaux sociaux d'une jeune femme qui avait un tract dans la poche. Ils ont sorti le tract dans la poche et lui ont mis 135 euros d'amende. Donc, il faut le dire. Il y a un énorme mouvement pour empêcher les gens de manifester, réduire leur droit constitutionnel à manifester et à s'exprimer. Ouais.
Il y a certaines manifestations, le car arrivait avec les manifestations de province, ils n'étaient pas descendus les cars, ils sont montés dans le car, ils les ont alignés. Hein, 135 euros. Alors on dit oui, il y a de moins en moins de ces manifestants. Bon, ce qui est vrai, mais au bout de 2 ans... quel mouvement pourrait avoir autour. Mais il faut dire que financièrement, c'est...
Et ça, on en entend peu parler dans les médias. Ouais, on voit peu de reportages là-dessus. On voit peu de journalistes qui témoignent de ça et qui s'y intéressent réellement. Quoi. Ça, c'est une réalité.
Nous, on s'y intéresse. On va faire une pause. Jean-Mi va nous envoyer la musique et on va reprendre et tu vas nous expliquer tout. On va revenir là-dessus plus profondément.
Mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvre noce où mon père et ma mère s'allèrent épouser devant monsieur le maire. C'est dans un charabeu, s'il faut parler bien franc, tiré par les amis, poussé par les parents, que les vieux amoureux firent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Cortège nuptial hors de l'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces de ce style. Voici le vent qui souffle emportant crève-cœur, le chapeau de mon père et les enfants de cœur. Voilà la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue, sur mon harmonica jouant les grandes orgues. Tous les garçons d'honneur montrant le poing au nu, criaient par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue et vive la mariée.
Alors, chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM. Aujourd'hui en direct, nous avons Yannick Argoat, éditeur de Adespot, de la maison d'édition Adespot, et son invité, Serge Dignazio, édité par Yannick, justement, pour son livre On est là, sur les gilets jaunes. Alors, Yannick, tu expliquais les mesures de rétorsion contre les gilets jaunes. Par les forces de l'ordre. Qu'est-ce que tu as d'autres anecdotes marquantes
Anecdote, c'est une sensation. Au début, les gens, les primo-manifestants, avaient une vision quand même assez bon enfant des forces de l'ordre. On me dit, bon, comme c'était des primo-manifestants, ils n'avaient jamais eu affaire en général au CRS, aux gendarmes et tout ça.
Et je pense qu'on sortait aussi des attentats de 2015, Charlie Hebdo.
Oui, oui.
Donc il y avait encore une bonne opinion sur les forces de l'ordre.
On aime la police, même voilà. Certains, on embrasse la police, embrasse un flic, voilà. On est tout ça.
Tout
donc,
à fait, il faut le dire.
Il faut le dire. Donc quand ils se sont pris les premières c'est lacrymo, ils n'ont pas compris.
J'imagine.
Attends, on est avec vous là, vous êtes avec nous. Les gars, bon, déjà, les CRS, ils ne parlent pas. Hein. Ils disent non, mais on n'est pas avec vous. Hein. Et boum, ça partait. Alors là, ils ont été très, très surpris, hein, parce qu'ils allaient très, très près, hein, ils ne comprenaient pas. Ils disent mais pourquoi vous nous lancez des LBD, pourquoi des grenades de désencerclement? Nous, on est là pour vous. On est là pour vos enfants en même temps. Alors, donc, ça a été en très, très peu de temps, ils ont compris ce qu'était la police. Donc.
Ce que les anarchistes savent, eux, dès la naissance.
Oui.
Dès que ça marche.
Voilà.
Éduqués par des parents, méfiants.
Et au-delà de ce qu'était la police, ce qu'était la doctrine policière.
Voilà.
Parce que derrière la matraque, ben, il y a les chefs. Et,
oui.
Et derrière les chefs, oui. il y a le pouvoir politique qui décide et qui donne les instructions.
Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était un certain monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur. Depuis, c'est un présumé délinquant, monsieur Darmanin. On ne va pas s'étendre.
Oui, non.
Mais la doctrine reste la même.
Ouais. Alors aussi, ils avaient tout un. Après, ils ont eu un discours très critique par rapport aux forces de l'ordre. Moi, j'ai essayé de leur expliquer, enfin, ceux que j'avais en contact, je lui ai dit, mais attendez, ils ne font qu'obéir, bon, avec plus ou moins de zèle. Mais les véritables donneurs d'ordre, c'est Castaner, c'est le pouvoir,
c'est le
préfet et c'est l'Allemand.
L'Allemand.
Donc, c'est. Ce ne sont que des outils, hein. C'est idiot à dire. Ce sont que des outils. Si on veut s'attaquer, c'est vraiment au pouvoir. Hein. Donc, oui, mais bon, ça a été difficile de faire ce cheminement. Et à juste titre. Parce que quand on se fait bousculer, c'est marcher dessus par des CRS, tout ça, se tirer dessus, arroser par des camions à eau. Un acte, la première fois qu'on voyait ça, ils avaient plus d'eau dans leur camion, ils ont été obligés de se ravitailler sur les pompes à eau des pompiers. On dirait ils avaient tellement aspergé les manifestants, en direct, ils avaient débranché leur camion. Donc tout ça, ils étaient très, très, très surpris. Mais le cheminement, à mon avis, le cheminement quand même politique...
Des
gilets jaunes, dans son lampe, il a été très très vite passé. Au début, on parlait d'essence, il parlait d'essence et des taxes. Et puis après, on a parlé c'est d'autres choses. Hein.
Oui.
On a parlé bon le pouvoir, mais qu'est-ce que c'est? La démocratie, mais qu'est-ce que c'est? Mais
le l'Assemblée, RIC, hein.
À quoi ça sert? C'est le RIC. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais peu importe. Mais le langage, les slogans a évolué. Après, ils ont parlé de fiscalité, mais les paradis fiscaux.
Oui.
On voyait sur des immenses banderoles, mais nous, on nous dit qu'on n'a pas de fric, mais par contre...
Il y en a plein dans les paradis fiscaux.
Il y en a plein dans les paradis fiscaux.
Yannick pourra
peut-être en parler.
Oui.
Donc, on a vu aussi ce
glissement.
Ce changement, ce glissement. Et très rapidement, hein. Très, très rapidement, hein. Donc ça, c'était assez positif.
Parce qu'on peut, on a parlé des médias, mais je crois qu'on peut dire aussi que les médias ont mis énormément de temps à reconnaître, à parler des violences policières. Mmh. Ça s'est presque fait de force. À un moment donné, c'était beaucoup trop présent. Enfin, il y avait eu trop de blessés, de gens éborgnés, estropiés, etc., etc., pour qu'ils n'en parlent pas. Et il y a quand même une digue qui a été... passer cette digue qui retenait l'information dans les médias et après au bout d'un moment ils se sont mis à en parler au début un petit peu il faut dire il y a eu le travail
de David Dufresne
remarquable de David Dufresne qui comptabilisait les blessés
sur Mediapart et sur son blog
et à un moment donné la digue a cédé et ils ont fini par admettre qu'il y avait des violences policières, mais pendant des mois et des mois, enfin, je veux dire, cette information ne passait pas du tout. Donc les Gilets jaunes étaient seuls dans les manifs à constater ce qui se passait, à constater cette violence, à constater ces traumatismes, et ils étaient en droit, et c'était normal, enfin, qu'ils se retournaient contre les médias pour dire vous ne faites pas votre boulot, c'est pas normal, vous ne faites pas votre travail d'information.
Ils ne le font pas. Il y a l'affaire Geneviève Lehiguier, Macron a été désavoué dans cette affaire par les GPN.
Récemment.
Les altermondialistes qui soutenaient. Parce qu'elle est de attaque, cette militante.
D'attaque.
ont pris conscience profondément à ce moment-là des violences policières. C'est cette affaire qui a été un tournant, je pense.
Puisqu'il a été un tournant, je crois que il y avait le travail photographique, évidemment, sur place, mais il y a aussi, enfin, ce qui était très présent, c'est toutes les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Aussi, ça aussi, ça fait une pression sur les médias. Ils pouvaient panier toute la journée ce que tout le monde voyait sur Facebook, sur Twitter, etc. Parce que maintenant, avec les appareils photos, les téléphones portables, on filme en permanence. Et ces images, elles se diffusaient
dans le monde entier,
dans les réseaux sociaux. Et puis, il y avait cette espèce de tabou absolu dans les médias dominants, qui faisait que la fracture était beaucoup trop forte à un moment donné. Comme je le dis, la digue a cédé, c'était beaucoup trop fort.
Alors, David Dufresne a sorti un film qui sort officiellement le 30 septembre, qui s'appelle Un pays qui se tient sage. Je ne sais pas si vous l'avez vu en avant-première.
Moi, pas.
Moi, je l'ai vu en cours de montage, j'ai ce privilège de l'avoir vu.
Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots pour le présenter ?
Donc c'est
parce que moi j'ai vu la bande-annonce et ça m'a donné envie d'aller le voir.
C'est un film produit par Bertrand Femme, sa société qui s'appelle Le Bureau, ça sort effectivement le 30. C'est un film de réflexion sur la question de la violence en état de droit. Ça part de la réflexion de Weber, le sociologue allemand qui dit l'État le monopole de la violence légitime, et donc ça questionne cette idée spécifiquement dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. C'est un film vraiment très 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 fort, à la fois fort parce qu'il témoigne de ce qu'ont été les violences dans les Gilets jaunes, puisqu'on y voit les images dont je parlais tout à l'heure de téléphones portables qui filment les violences, etc., les gens éborgnés et tout ça. Des images qu'on a déjà beaucoup vues, mais qui sont remises dans un contexte de réflexion où un certain nombre de témoins, de façon très très large, sociologues de la police, gilets jaunes, philosophes, historiens, policiers eux-mêmes, viennent questionner et débattre de cette question de la violence de l'État. Et donc, pour ça, c'est un film extrêmement nécessaire, extrêmement fort. Je crois qu'il ça. Il y a toute une série d'avant-premières actuellement qui font salle comble. C'est vraiment le film qui est très attendu de la rentrée. Nous, on y est invités d'ailleurs. On va animer tous les deux une projection de débat. Il nous a été demandé de le faire.
Quand ?
Ça sera
le 2 octobre.
Le 2 octobre, là, au 3 Luxembourg, au cinéma Le 3 Luxembourg, là, dans le 6e arrondissement. Et voilà, je pense que ça va vraiment être le film documentaire de la rentrée.
Alors, par contre, votre première sortie en librairie, c'est Le Monde en l'air. C'est le 25.
Oui, c'est la dédicace, la soirée dédicace.
Le Monde en l'air, c'est une petite librairie
à Ménilmontant,
voilà. Et effectivement, c'est la première signature officielle du livre. Venez nombreux, vous serez bien accueillis et il y aura de quoi boire.
Oui, alors nous, on ne pourra pas y être parce que les Gilets jaunes ont fait des cahiers de doléances et dedans, ils ont parlé des barrages. Or, le 25, nous avons réussi à avoir une date à Publico pour diffuser l'excellent documentaire de Nicolas Hubelmann sur les barrages. Nicolas Hubelmann s'est intéressé au mouvement des Gilets jaunes, lui aussi, par la question des barrages. Parce que les Gilets jaunes disaient qu'il ne fallait pas privatiser les barrages. Et donc nous faisons la projection du documentaire et un débat avec l'une des participantes de ce documentaire, Anne Desbréjas. Donc voilà. Donc Publico, c'est 145 rue Amelot. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez le livre de Serge Dugnasio, il sera à Publico. Et je me ferai un plaisir de vous le vendre parce que je serai là en chair et en os. En chair plutôt. En os pour François. Et je me ferai un plaisir de vous le vendre et de discuter autour d'un verre. Parce que c'est nous, c'est le groupe Louise Michel qui organise la diffusion du film Barrage de Nicolas Hubelmann. Donc, alors, ça c'était la...
Convergence des luttes.
Convergence des luttes. Revenons au livre proprement dit, Yannick. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il est composé ?
Alors, il est composé, c'est
plus précisément,
c'est un long travail de tamisage, parce que Serge m'a fait la métier de me confier ce travail, c'est-à-dire de choisir les photos qui allaient composer le livre, à partir d'un corpus quand même très très important, puisque au moment où on a commencé le film, le travail et la réflexion sur le livre, je ne sais pas la date précisément, mais on n'était pas loin d'un an de manifestation, hein, déjà.
Ah donc, oui, il devait y avoir un morceau de photos.
Donc, conceptuellement, on s'est dit, on va faire un an de cortège, on va s'arrêter, le corpus, ça sera un an de cortège. Évidemment, les manifestations continuent bien au-delà, et bien évidemment, Serge a continué à photographier les gilets jaunes au-delà de cet anniversaire. Mais ça faisait déjà, j'ai pas compté, mais peut-être 5 000 photos.
Oui, oui, voilà. C'est énorme.
Donc il y avait un corpus très important. On s'était donné le chiffre de 150 photos à peu près, parce que ça correspondait à une pagination qui faisait que le livre on pouvait rester sur un tarif de vente pas trop cher. Et puis, progressivement, de filtre en filtre, de sélection en sélection, je suis arrivé à un groupe de 150 photos, avec des allers-retours, des moments où je me dis, est-ce que j'ai pas oublié une photo encore plus importante que celle que j'ai gardée? Et puis ensuite, il a fallu composer la maquette. L'idée, c'était pas de rendre compte d'une chronologie, de dire, ça c'est jour 1, c'est l'acte 1, ouais. L'acte 2, etc. C'était, mais d'essayer quand même de composer un chemin à travers photographique qui rende compte en priorité du travail photographique de Serge, parce que, comme tout artiste, comme toute personne qui regarde et qui a sa façon d'exprimer ce qu'est son outil, il y a des thématiques, il y a des invariants, il y a des motifs, et moi je tenais à ce que chacun de ces motifs-là soit présent dans le livre pour bien qu'il témoigne vraiment de la complexité de son travail. Donc il y a des portraits de gens, des portraits souvent pris très près, vraiment frontal, où les gens regardent l'objectif, se donnent à photographier, avec fierté, souvent, beaucoup d'humour, il y a énormément d'humour dans les photos, il y a des moments d'action, de violence, d'action de la police, où on sent que la foule est en mouvement, et la répression aussi. Il y a aussi beaucoup de photographies de la police elle-même. Il y a énormément de photos dans le livre qui sont des photos de CRS, de portraits de CRS, et de la même manière. Alors eux, ils ne se donnent pas de la même façon, mais ils sont photographiés aussi souvent très près.
Juste un petit aparté. J'ai appris récemment que la CRS 21 affichait mes photos dans leur salle de repos.
C'est pas vrai.
Si, parce que j'ai un ami qui est voisin d'un CRS, il lui dit, écoute, tu sais, on affiche dans notre salle de repos des photos d'un mec qui nous photographie. Il lui dit, tu peux montrer un peu les photos. Il me connaissait, c'est un pote. Il me dit, oui, mais tu sais, je le connais, c'est un copain à moi. Donc, la CRS 21 à Saint-Quentin a vérifié, je connais pas, affiche mes photos dans leur salle de repos.
Oui, il y a de très beaux portraits de CRS qui sont aussi des hommes, qui sont aussi d'une certaine manière une forme de prolétariat, de l'ordre social. Et Serge en témoigne aussi de ça. Et ça aussi, c'est intéressant, on le voit très peu. Donc il y a ces portraits de CRS. Et puis le mouvement du livre, le mouvement interne du livre, c'est de rendre compte un peu de toutes les phases de ce mouvement. C'est-à-dire. Beaucoup de joie parfois, beaucoup de joie d'être ensemble, de revendiquer, de partager. Beaucoup de femmes, parce que c'est aussi un mouvement extrêmement féminin. On l'a oublié, mais il y a énormément de femmes dans ce mouvement.
Elles sont en première ligne.
Il y a beaucoup de femmes dans le livre.
Avant-poste,
C'est un mouvement aussi d'handicapés. Dans les cortèges, on voyait beaucoup de chaises roulantes, de gens handicapés, parce que c'est aussi des gens qui souffrent dans leur vie quotidienne de prestations sociales dévalorisées année après année, de difficultés à trouver des aides, etc., et à exister dans la société. Donc, on les voit aussi. Et puis, ces phases de joie d'être ensemble, de se retrouver de semaine en semaine, on sent qu'il y a des groupes qui se forment, des gens qui se sont connus, reconnus, et des amitiés qui sont nées dans ces mouvements, c'est très présent dans les photos. Et puis, ces phases de répression et d'action qui sont traitées non pas parce que c'est spectaculaire, mais pour témoigner de la réalité de ces samedis après-midi.
Et beaucoup de retraités aussi.
Beaucoup de retraités.
Énormément de retraités.
Alors, nous avons un petit souci, non, Jean-Mi, d'accord.
Je vais aller voir.
Bien. Alors, beaucoup de retraités, tu disais, Serge.
Oui, beaucoup de retraités, beaucoup de femmes, bien sûr, aux avant-postes. Vraiment, allons au contact. Vraiment, c'est étonnant. Étonnant, je sais, je n'avais jamais vu ça. Mais vraiment, allons au contact. J'étais très surpris, hein. Et puis bon, c'est vrai qu'ils étaient révoltés. Pourquoi ? Parce qu'ils demandaient simplement un petit plus, c'est socialement, hein. C'était pas des révolutionnaires, hein. Au début, c'était pas des gauchistes, des révolutionnaires, des anarchistes. C'est des gens qui voulaient une reconnaissance, oui. Et un petit mieux social. Et face à ça, il devait y avoir une réponse politique.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on a fait ? Une réponse à la matraque. Mmh. Et ça a pas été, c'est pas passé. Hein. Mmh. C'est pas passé. Réponse à la matraque, réponse financière.
Oui.
Donc tout ça, cumulant, ça...
On peut parler justement de celui qui vous a fait rencontrer, M. Détinger. Il a 45 000 euros d'amende, si mes souvenirs sont exacts.
Apparemment, oui, on lui demande 45 000 euros de dommages et intérêts. Enfin, je connais pas le détail exactement...
C'est pour l'assommer financièrement. Ah, il n'y a pas d'autre
explication. C'est pour l'assommer. Il m'expliquait quand il a été arrêté, ils ont complètement défoncé son appartement. Hein. Ils ont ravagé avec ses enfants à l'intérieur. Ils ont tout cassé à l'intérieur. Hein. C'était pour marquer, c'est les esprits, encore une fois.
Une forme de vengeance.
Voilà, une vengeance. Ils ont été tellement ridiculisés. Un seul bonhomme qui arrive à faire reculer 3 CRS, c'était du jamais vu. Hein.
À main nue, oui.
À main nue, hein, c'était du jamais. Et ça, c'est. C'était vexatoire pour eux. Et donc, ils lui font payer. Ils lui font payer encore, à mon avis. Hein.
Bon.
Oui, parce que il y a eu un nombre incalculable de gens qui ont été condamnés à de la prison ferme.
J'allais y venir.
Ah bon, d'accord.
J'allais y venir, François. Nous avons regardé le nombre, sur la page Wikipédia des Gilets jaunes, nous avons regardé le nombre de peines. En moyenne, c'était 6 mois, la moyenne.
6 mois. Oui.
6 mois de prison ferme. Pour avoir manifesté, c'est hallucinant.
Non, il y a eu une réponse judiciaire, effectivement, enfin, très 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 forte. Une,
oui, il y a eu...
Une répression judiciaire, on en parle aussi très très peu.
Le manque
de journalistes qui s'y intéressent. Mais effectivement, la réponse judiciaire, elle est extrêmement violente, aussi violente que la réponse physique.
La complicité, on peut parler de complicité. Montesquieu, il doit se retourner dans sa tombe, hein, et je croyais qu'il y avait séparation des pouvoirs. Ben là, hein, l'exécutif, et le judiciaire et le policier, main dans la main, mais enfin, matraque dans la main, j'ai envie de dire.
Avec, je pense, des instructions du parquet pour que ça se passe comme ça, les comparutions immédiates, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît de l'arsenal judiciaire qui a été voté depuis une quinzaine d'années successivement, les lois Perbénin, Perbène 2, etc. Enfin, voilà, qui donne à la justice les instruments de cette répression, quoi. Les instruments juridiques de cette répression.
Alors, Serge, tu disais que... Les Gilets jaunes voulaient une réponse politique.
Non.
Enfin...
On aurait dû leur donner une réponse politique.
Voilà, on aurait dû leur donner une réponse politique. Alors, est-ce que maintenant qu'on est 2 ans, on va bientôt fêter les 2 ans du mouvement des Gilets jaunes, ils sont toujours debout, malgré les médias qui sont contre eux, l'oligarchie financière qui est contre eux, la répression qui est contre eux. C'est incroyable de voir qu'il y avait une manifestation il y a 15 jours, ils étaient dans la rue.
Ils sont toujours là. Il y a 3 semaines, ils étaient à Deauville. Hein. Moi, j'y étais à Deauville. Ils étaient 50 sur les planches. Deauville était assiégé. C'est-à-dire que tous les commerces étaient fermés. Le casino était fermé. Moi qui voulais jouer, bon, je blague. Mais tout était fermé. Hein. Il y avait 50 gilets jaunes. Ils étaient entourés de CRS. On avait l'impression que les Martiens...
avaient débarqué.
Débarqué à Deauville. Même tous les bourgeois étaient... Waouh,
à Paris, les chiffres que j'ai lus et vus à Paris, il semblait qu'il y avait autant de policiers que de gilets jaunes.
Plus.
Ah, oui, beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de policiers que de gilets jaunes. Il y avait à peu près 1500 à 2000 gilets jaunes et il y avait 6000 policiers.
Ah, oui.
Donc c'est rajouter le ridicule à la violence, là.
Hein? Tout à fait.
C'est une république bananière. C'est digne d'une république bananière, en tout cas.
Mais je n'arrête pas de le démontrer dans toutes nos émissions, François. Quinzaine après quinzaine. Si tu as suivi nos émissions, tu es édifié. Émissions que l'on peut réécouter en podcast sur le site du groupe Louise Michel, dont je ne me rappelle plus l'adresse, mais vous tapez groupe Louise Michel dans n'importe quel moteur de recherche. Et
sur
vous tombez...
Quant, vous allez chercher un bon moteur de recherche qui ne file pas votre numéro d'IP, donc vous prenez Quant, surtout pas Google, et vous tapez groupe Louise Michel. Vous allez tomber sur le site du groupe Louise Michel et vous allez voir, il y a toutes les émissions depuis une dizaine d'années qui sont disponibles.
Voilà. Donc vous pourrez les réécouter.
Énorme source documentaire.
Voilà, oui. Tout à fait. C'est notre îlot de résistance. Et notamment l'émission pour laquelle je t'avais reçu. Et j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, parce que c'est ton actualité. Je t'avais reçu parce que tu es en train de faire un film avec Denis Robert sur l'évasion fiscale. Denis Robert a des ennuis, donc officiellement, on peut en parler un tout petit peu.
Je crois que c'est public, oui. Oui,
oui c'est public. Ouais. Donc, Denis Robert a des problèmes avec le média.
Voilà, il semble. Il semble qu'il a des problèmes aujourd'hui assez, assez graves, en tout cas suffisamment graves pour s'être trouvé licencié de ses fonctions de directeur de la rédaction du Média, qu'il occupait depuis plusieurs mois, je ne saurais pas dire, au moins
plus d'un an.
Et effectivement, il y a un conflit à l'intérieur de cette entreprise de presse, hein, puisque c'est une entreprise de presse. Et je pense, à mon sens, et je le dis parce que je suis assez proche de lui et aussi d'un certain nombre de personnes qui travaillent là-bas et qui m'en ont beaucoup parlé, voilà, et il est victime de ce qui s'y passe aujourd'hui.
D'accord. Revenons sur l'actualité, sur ce film. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour nous allécher lorsqu'il va sortir pour qu'on aille le voir, pour qu'on se précipite pour aller le voir ?
Ah oui, alors c'est un film qui prétend parler de la question de l'évasion fiscale, parce que pour nous c'est une question importante. Quand on vit sous le régime des politiques d'austérité depuis 20 ans ou 15 ans de manière très très forte, qu'on entend partout de dire voilà, il n'y a plus d'argent dans les caisses, l'État est en faillite, l'État a une dette insurmontable et donc il faut réduire les prestations sociales, réduire les dotations à l'hôpital, vendre les biens publics aux privés, etc. pour financer notre dette. Nous on dit qu'il y a quand même un problème récurrent, c'est celui de l'évasion fiscale, c'est celui des recettes fiscales qui diminuent et qui disparaissent frauduleusement par le fait de la frange la plus riche de la société, évidemment, des riches et des ultra-riches qui utilisent tout un tas de techniques et de moyens pour mettre leur argent.
Les avocats,
les cabinets fiscalistes, les banques, et essentiellement les banques aussi, et les conseils des banques, mais aussi. Enfin, les grandes entreprises aujourd'hui, les multinationales, qui bénéficient d'une tolérance coupable, on peut même dire criminelle, des États, en exploitant les failles du système fiscal international qui leur permet de localiser, c'est un peu le terme technique, leurs bénéfices dans des filiales sur des territoires où elles ne seront pas imposées. Et ce déficit de recettes de l'État se chiffre à 100 milliards d'euros par an pour la France. Mmh. Ça, c'est un chiffre qui est relativement bien admis, attesté à la fois par exemple, le syndicat des finances publiques, Solidaire Finances Publiques, qui a fait une étude très longue et très précise sur cette fraude et cette évasion fiscale, mais aussi des économistes qui travaillent à travers des études sur la balance des paiements des États. Donc ils arrivent bon an mal an au même chiffre, 100 milliards d'euros chaque année qui disparaissent des caisses de l'État. C'est évidemment beaucoup plus que le budget de l'éducation nationale, hein, 74 milliards d'euros. C'est évidemment X fois le déficit de la sécurité sociale. C'est l'équivalent de 5 années de CICE. Enfin, voilà. Donc, c'est chaque année. Donc, imaginons qu'on en récupère même une fraction assez importante. Il n'y aurait plus de problème d'austérité en France. Donc, je pense que ça méritait un film.
Et je pense qu'il faut souligner aussi en passant, pour montrer la complicité du pouvoir politique avec le pouvoir économique, c'est le parti pris de diminuer d'une façon drastique et les inspecteurs du fisc et les inspecteurs pour faire respecter le code du travail. Parce que c'est, je pense que ça procède de la même détermination à casser le droit des salariés. Et à casser les juges. Là, tiens, les juges, là, ils devraient être efficaces et dynamiques. Et quand ils sont condamnés, ils ne font pas 6 mois comme les gilets jaunes. Hein. Ils font combien ? Ils font 2 mois avec sursis.
Oui, et encore, quand tout va bien.
En tout cas, ils ne vont pas en prison. Hein, ça,
ils
ne
vont
sûr.
Jamais en prison. Monsieur Cahuzac a été libéré de son bracelet électronique. Il n'a pas fait de prison.
Récemment, non. Monsieur Valcani
a été
libéré, il faut le reconnaître, et sa femme n'a jamais été incarcérée malgré les peines prononcées.
Alors que n'importe quelle mère de famille, n'importe quelle mère de famille qui vole pour ses enfants dans un supermarché, elle est conduite tout de suite en prison.
Tu parles comme une gilet jaune, Mariama.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que j'ai fait une émission.
Au-delà de ça, il y a un
jaune.
Véritable problème politique, et il est aussi un problème européen, puisque on peut dire que les principaux pays fiscaux, paradis fiscaux de la planète se situent en Europe. On peut citer le Luxembourg, on peut citer la Hollande, citer Malte.
Les îles anglo-normandes.
Voilà, qui font partie de l'Union européenne. Monaco. Et qui pillent réellement les ressources fiscales de ses partenaires politiques et économiques. Mm. Donc voilà, le problème, il a beaucoup de facettes. Comme tout problème, il est complexe. Il y a énormément de problématiques qui sont liées à la question de l'évasion fiscale, mais il serait très... Enfin, nous, on fait un film de combat, on fait un film pour alerter l'opinion publique, les citoyens, sur ce qui se passe, et donner la parole à ceux qui travaillent sur la question, et Mariama en est l'une des chevilles ouvrières, hein, parce que tu peux le dire, t'as une action sur la question des paradis fiscaux très ancienne, enfin voilà, tu mènes un travail d'information et de documentation sur ces questions qui est remarquable, et nous, dans le film, on a beaucoup utilisé les ressources que vous avez mis sur votre site et sur le travail que vous faites quotidien autour de ces questions-là. Il y a aussi des acteurs d'ONG qui travaillent sur ces questions, donc nous, on s'appuie énormément sur ce travail de nos spécialistes pour faire entendre à la fois leurs analyses et leurs solutions.
Alors, le film s'appelle La Très Grande Évasion.
La Très Grande Évasion. Alors, je suis un peu à la bourre hein, sur la fabrication du film. Il faut dire qu'il y a le Covid qui s'est mis là-dedans.
Oui, ça, j'imagine.
Qui nous a bien lié les pattes pendant un moment. On rentre en montage au début du mois prochain et on espère une sortie, ça c'est sûr, en 2021. Je ne peux pas dire la date parce que je ne la connais pas.
Mais de toute façon, j'en ferai la promotion dans notre émission et j'inciterai nos auditeurs à aller le regarder parce que c'est un très bon documentaire, comme tu sais très bien les faire. Alors, Jean-Mi nous fait signe qu'il va mettre une plage musicale. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, nous sommes de retour à l'antenne avec Yannick Argoat, des éditions Adespot, et Serge D'Ignazio, de On est là, ouvrage magnifique sur les gilets jaunes de photographie. Alors, je vais faire la promotion d'un film documentaire qui est en cours de montage, de Raymond Macherel, qui s'appelle « Un moment sans retour » sur les gilets jaunes. Il est en voie de financement, sur financement participatif, pardon, sur Kiss Kiss Bang Bang. Il a besoin de 25 000 euros pour finir le film sur les gilets jaunes. Alors, Raymond Macherel, vous allez tous le voir sur Facebook. C'est ce photographe qui reçoit un ordre d'un CRS qui lui dit, textuellement, j'ai noté la phrase, rentrez chez vous si vous voulez rester en vie. Parce qu'il voulait récupérer son casque qui était tombé à terre. Donc, un moment sans retour, il a filmé les gilets jaunes de Bretagne. Donc, si vous voulez participer à ce crowdfunding, allez sur Kiss Kiss Bang Bang et tapez un moment sans retour, ou vous tapez Raymond Macherel dans Kiss Kiss Bang Bang et vous tomberez sur la souscription. Serge, les violences policières, je voudrais qu'on insiste sur cette dernière partie et qu'on les pointe, parce qu'on n'aura jamais l'occasion d'en parler autant que dans cette émission, parce que c'est pas vraiment l'actualité sur certaines chaînes d'information continue. On va pas les citer. Allons-y. Il y en a une qui est en cours de boycottage, c'est CNews. Ils ont lancé un certain nombre de journalistes courageux. On lançait sur Twitter un hashtag boycott CNews cet après-midi. J'ai vu ça passer.
Oui,
tu l'as vu passer,
oui.
Yannick ? Donc, non, parce que CNews, oui. ça devient. Oui. Ça, c'est plus oui. possible. Il y avait déjà Éric Zemmour, mais le reste est à l'avenant. Bien. Donc, les violences.
Alors, encore un petit aparté. Hein. Les violences, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça ne vient pas des gilets jaunes. Hein. J'ai noté, ça va être très rapide, hein. En 38, il y a eu des répressions, il y a eu 500 grévistes qui ont été en prison. En 42, la RAF du Veldif. En 48, la grève des mineurs qui a été réprimée par une extrême violence.
Alors, leurs descendants ont obtenu des réparations.
Ah, oui. Super.
Oui, c'est vrai.
Maintenant.
Ils sont un petit peu âgés maintenant.
En 61, une centaine d'Algériens furent abattus par la police et jetés à la Seine. C'est quand même
le 17 octobre. Voilà. C'est pour ça que la marche des sans-papiers arrive le 17 octobre 61 à Paris, à l'Élysée.
En 62, Charonne, où la police tua 8 manifestants contre la guerre d'Algérie.
Oui.
Après, il y a eu 68, les grèves violentes des marins-pêcheurs.
Oui.
C'est réprimé. Puis aussi, c'est les banlieues. Hein. Bon, on dit maintenant les banlieues, mais de fait de nombreuses années, les banlieues, ils
encaissent. Surtout après la mort de Zinedine.
C'est les violences policières.
Ouais.
Et puis aussi, quelque chose qu'on oublie un petit peu, c'est les occupations d'usines. Le nombre d'occupations d'usines qui ont été évacuées par les CRS et la police, par les forces de l'ordre. On dit la police et.
Force du désordre.
Ils sont au service de la population. Non, ils ne sont pas au service de la population.
Ils sont au service de l'oligarchie au pouvoir.
Au service des possédants. Hein, donc,
oui, l'oligarchie au pouvoir.
Voilà. Donc cette violence, ça ne vient pas simplement des gilets jaunes. Mais le gilet jaune, à mon avis, c'est toutes les semaines, ça venait. Toutes les semaines, pendant 2 ans bientôt. Et puis une augmentation, c'est de l'armement.
Oui.
On a même vu, c'est des espèces de tanks sur les Champs-Élysées.
Tout à fait.
Donc des choses qu'on n'avait jamais vues. La dernière manif...
L'armée devant les bâtiments publics.
Voilà. Oui.
Et il y a eu les voltigeurs aussi. Ah, les voltigeurs. Voilà les braves gens.
On va parler, c'est de la BAC. Là, par exemple, c'est jeudi, il y a eu une manif, c'est syndical, hein. C'est jeudi. Moi, j'ai vu un CRS, il avait un FAMAS, c'est dans le dos.
Oui.
On se dit, bon, est-ce que ça se justifie d'avoir un FAMAS pour une manif syndicale? Bon, ça, c'est pour faire peur. On se dit, s'ils ont un FAMAS, ils peuvent l'utiliser.
Ah bah,
ils
ne
pourraient pas être dans le...
Ils comptaient pas faire les courses
dans
avec.
Dans le sensationnel, mais bon...
Ils ne comptaient pas faire ses courses avec,
voilà,
hein, Serge.
Voilà, donc, toutes ces choses-là. Et puis, il y a eu l'intervention, c'est de la BAC. La BAC aussi, il y a aussi un basculement. La brigade anticriminalité, qui, apparemment, ils sont très forts en banlieue. Je mets les guillemets, des énormes guillemets. Et puis là, ils ont transformé les manifestants en délinquants. Entre guillemets encore. Donc là aussi, ça a été très violent, hein, cette répression. Là, donc ils n'ont aucun insigne, aucun moyen de reconnaissance. pour la BAC.
Tout à fait.
Ils foncent dans le tas, hein, sachant qu'ils sont, à mon avis, ils ont une impunité, c'est total.
Oui.
Quand Castaner disait « je suis derrière la police », je ne sais pas, un ministre, il n'est pas derrière la police. C'est pas, il ne doit pas être derrière. Donc, ils se sont sentis...
des ailes.
En roue libre. Hein. Donc, voilà.
Yannick ?
Oui, je pense que ça a été une doctrine politique. Enfin, je crois que le régime a eu peur. Je pense que le régime a eu peur. Il y a différents témoignages qui l'ont dit ici et là. À un moment donné,
ils ont pété les plombs,
ça a été très près de l'Élysée. On dit même que le président, enfin voilà, avait un chemin de pour s'exfiltrer de l'Élysée au cas où les gilets jaunes arriveraient à défoncer la porte.
Que ne l'ont-ils pas fait ?
Le pouvoir a eu peur et effectivement a changé de doctrine, a changé de préfet en cours de route et a décidé effectivement d'une répression extrêmement forte de ce mouvement. Il fallait en finir avec les gilets jaunes, il fallait faire peur, il fallait arrêter, il fallait juger, il fallait emprisonner, il fallait blesser de toutes les manières possibles, et il fallait nier qu'on le fasse, en plus. Hein. Mmh. Il fallait le faire au nom d'un état de droit, de la civilisation contre les barbares, en gros. Hein. Je veux dire, il y avait la barbare dans la rue, donc toutes les semaines, on inventait un qualificatif encore plus dépréciatif. Ils étaient homophobes, ils étaient racistes, ils étaient tout ce qu'on voulait, etc. Et les chaînes formation continue se sont mis au service de cette doctrine-là et de cette manière de discréditer un mouvement. Alors bon, les médias dominants sont très familiers de discréditer les mouvements sociaux depuis déjà des années et des années. On a parlé à Acrimed. Acrimed a fait un travail considérable d'analyse du biais médiatique quand on parle de grève ou de revendication sociale. Mais là, ça a été réellement amplifié. Et puis, comme le disait Serge, c'était toutes les semaines. Donc voilà, il y avait une forme d'escalade de la dépréciation et du jugement négatif sur les gilets jaunes de semaine en semaine.
Alors, les gilets jaunes, Serge, qu'est-ce que tu peux me dire sur leur état d'esprit à l'heure actuelle, maintenant qu'on a eu la Covid, la répression financière, la répression physique, la répression brutale, dans quel état d'esprit sont-ils ?
Vaste question. Hein. Bon, ils sont très fatigués. Hein. Enfin,
ça, on s'en doute.
À mon avis, il y a une fatigue. Et puis, ils sont un peu. C'est pour certains très, très démoralisés. Parce que maintenant, sur Paris. Bon, je parle de Paris. Hein. En province, j'y suis allé c'est qu'une seule fois à Nantes. Hein. Je ne peux pas parler, c'est des ronds-points de province. Mais sur Paris, il y a plusieurs manifs, c'est le samedi. Bon, ça divise le mouvement. Déjà qu'il n'y a plus beaucoup grand monde. En plus, il y a plusieurs tendances au sein des gilets jaunes. Ça fait, bon, on est 50, on est 200 dans un coin. Donc, ça ne remonte pas le moral. Hein. Donc, là-dessus. Mais il y a toujours un noyau dur. C'est ce qui est incroyable. Il y a toujours des gens qui sont là. Ils disent, ben non, on est là, on reste là, et puis on va se manifester, et on va les emmerder, et puis voilà.
C'est fantastique. Le titre de ton ouvrage, ouais, on est là.
On est là, mais c'est extraordinaire, hein, quand même. Les gens, ils ont toujours le moral. Bon, il y en a qui ont perdu, hein, qui ont perdu la foi. Faut pas nier. Hein. Mm-hmm. C'est pas la peine non plus de... Non, non, ils sont fatigués. Et puis le Covid, ou la Covid, ça a donné un petit coup d'arrêt, c'est quand même. Hein. Ça a donné... Les gens, est-ce qu'on met le masque, est-ce qu'on ne sait pas met le masque, est-ce qu'on on va se faire aligner parce qu'on n'a pas mis le masque, est-ce que, bon, il y a toutes ces choses-là.
Oui.
Et puis les CRS sont toujours là, hein. les forces de l'ordre sont toujours là.
Ils sont payés pour ça.
Ils sont payés pour ça. Même eux, comme on disait tout à l'heure, les CRS, même on entend des conversations, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Des manifs, ils étaient 50, qu'est-ce qu'on fout là ? Il y a les CRS partout, les mecs, ils se disent, mais... Ça frise, c'est le ridicule. Mais je pense que c'est symbolique. Il faut montrer la force de l'État. Voilà. Donc.
Alors, tu dis c'est symbolique, il faut montrer la force de l'État. Nous sommes anarchistes, à Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous sommes dans l'émission Pas de quartier du groupe Louise Michel. Nous avons une conception de l'État, de la lutte contre l'État, qui est anarchiste. François, tu vas peut-être en dire quelques mots ?
Oh ben non, alors j'ai pas envie de finir en tôle. Hein. Ah non.
Mais je perds le fil de mon intervention.
Tu voulais dire quelles étaient les idées anarchistes par rapport à l'État ?
Oui, s'il te plaît.
Bah,
un des grands combats des anarchistes, c'est de supprimer même la notion d'État.
Voilà.
Pour que ce soit remplacé par des alliances affinitaires ou autres de communes, de communautés, et toutes ces communautés étant fédérées. Mais il est bien évident qu'il n'y ait, dans la théorie des anarchistes, depuis Kropotkin, Bakounine, enfin tous les grands ancêtres, Louise Michel, l'État c'est le principal, c'est pas un ennemi, puisque l'État, moi j'ai jamais vu l'État se balader dans la rue, mais ses représentants en tout cas sont des ennemis. Voilà. C'est une allégorie l'État, mais il symbolise bien la force de répression des riches et des possédants.
Alors Serge, est-ce que tu as senti ce virage? Est-ce que tu peux dire que maintenant ils ont compris que l'État est leur principal ennemi et qu'il faudra politiquement trouver une riposte?
Qu'ils aient compris, je ne me sens pas, encore une fois, je ne suis pas la voix des Gilets jaunes. Hein,
mais est-ce que c'est ton sentiment?
Pour certaines personnes, je pense qu'il y a eu une évolution, c'est politique. Hein, mm-hmm. Une évolution politique. Pour d'autres, non, pour X raisons, hein, mais bon... Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris. Hein. Je pense, hein, le rôle de la police, l'État, l'évasion fiscale, c'est toutes ces choses-là qu'on ne parlait pas au début. Hein.
Oui.
Maintenant, ça revient d'une façon assez régulière et naturellement. À mon avis, le premier acte 1, on aurait parlé d'évasion fiscale, les mecs, ils nous auraient regardé avec des yeux, waouh, de quoi il me parle celui-là. Maintenant, tu parles d'évasion fiscale, ils vont dire, bah oui, ils vont...
Ils ont compris.
Oui, il y a quelque chose qui a fait le tilt. Si on leur parle de répression policière, là aussi, c'est...
Ils font tilt.
Ils font tilt. Voilà, ils comprennent certaines choses.
Ça a été un grand mouvement d'éducation populaire, je pense. Voilà, de formation à la politique pour toute une frange de la population. Je ne dis pas tous les gilets jaunes, mais qui n'étaient pas forcément intéressés par la lutte, par la revendication, etc. Ben, de façon extrêmement accélérée, samedi en samedi, ils s'en sont venus à se questionner, à réfléchir ensemble, à imaginer des slogans, à proposer des solutions et à porter ce mouvement. Et donc, je pense que c'est un mouvement qui sûrement s'épuise aujourd'hui, c'est certain, avec des raisons objectives pour ça, mais qui va laisser des traces profondes, je pense, dans une certaine population, qui regermera ailleurs, c'est certain. C'est, voilà, à un moment donné, les Gilets jaunes ont compris, ont vécu quelque chose de profond. C'est inscrit dans leur vie, c'est inscrit dans leur famille, c'est inscrit dans leur territoire, dans leurs amitiés. Et ça, voilà, ça prendra une forme de révolte différente ailleurs à un moment ou à un autre.
Donc, la révolte couve, et d'ailleurs même les commentateurs des chaînes d'information continue sont obligés de le reconnaître, ils ont peur. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont semé la peur à changer de camp, je pense. C'est-à-dire qu'on avait une... Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, avait osé sortir à une époque, la guerre des classes est terminée, nous l'avons gagnée.
Ça fait longtemps que nous l'avons gagné, il a dit.
Voilà, tout à fait. Donc là, avec les Gilets jaunes, qui est le mouvement social le plus important depuis mai 68...
En France. Hein.
En France. Je veux dire, la peur a changé de camp. Et en plus, les Gilets jaunes ont fait des émules un peu partout dans le monde. Le jaune est une couleur politique maintenant. Je veux dire, à Taïwan, ils se sont mis en jaune en hommage aux Gilets jaunes.
C'est vrai. Et les Gilets jaunes ont fait une hommage à Hong Kong au moment de la révolte de Hong Kong. Je me souviens, il y a une photo dans le livre qui en témoigne.
Voilà. Donc ça nous a marqué. On s'est dit, mais le monde est global. On agit local. Le monde est global. Et peut-être que l'étincelle des Gilets jaunes va retentir quelque part et va balayer. Et nous serons peut-être la première génération, comme le dit Alain Deneau, nous serons peut-être la première génération à voir... La fin du capitalisme.
Espérons-le, en tout cas qu'on le renverse réellement, on le renverse avec un projet de société qui ne meurt pas dans des convulsions d'un auto-suicide désastreux, mais qu'on y mette fin nous-mêmes.
Même si on ne voit pas la fin du capitalisme, puisque je pense que malheureusement il y a des dangers de type écologique qui sont... très présent, dû en grande partie au capitalisme d'ailleurs.
Mais si on ne voit pas la fin du capitalisme, en tout cas, on va voir la fin de ce sentiment partagé par les grands, les moyens et les petits que la démocratie représentative, c'est le pire des systèmes, mais il n'y en a pas de meilleur. Hein. C'est Churchill qui disait ça. Hein.
Tout à fait.
Mais ça, il faut arrêter avec cette démocratie dont se gargarisent les bouffons, les pantins de la radio et de la télévision. Quand ils emploient le mot démocratie, on a l'impression de Démosthène en train de mâcher ses galets. Hein. C'est incroyable. Voilà, bon, mais il faut que j'arrête. Je te repasse la main.
François, oui, ouais. on va demander à Serge. Quand tu photographies les Gilets jaunes, est-ce que tu as le sentiment de participer à leur projet de société en laissant une trace dans le paysage? Parce qu'ils laissent une trace, c'est un projet de société qu'ils bâtissent.
Du moins, c'est, je l'espère. Je l'espère, de laisser une trace. Et il y a aussi, j'ai expliqué très rapidement, c'est ma façon de procéder. En général, je demande l'autorisation, c'est des gens. Quand je les prends en gros plan, je leur demande, est-ce que je peux vous photographier? Donc, je suis pas un chasseur d'images avec un téléobjectif. Je m'approche très, très près. Donc, en général, il y a...
T'as demandé aux flics aussi?
Non. il se passe quelque chose et j'ai rarement de refus. J'ai pratiquement jamais de refus. Donc,
non, parce que les gens sentent le respect.
Oui, je pense. Enfin, et puis la confiance. Ils savent comment je photographie. Comme je leur donne, c'est les photos. Ils savent le résultat.
D'acte en acte, Serge, toujours présent, samedi après samedi, devient quelqu'un de connu d'une certaine façon. Il est reconnu. Hein, les gens le connaissent au bout d'un moment.
Même parce des fois, ils m'engueulent parce que je ne les ai pas photographiés. Ah, tu ne m'as pas photographié aujourd'hui.
Parce que les Gilets jaunes sont très méfiants. On a essayé de les approcher, nous les anarchistes, et ils ont refusé. Parce qu'ils ne veulent pas être récupérés. Ce que nous comprenons très bien. Nous avons été contents de voir que certains de nos slogans sont repris par eux. Donc, après tout, nous essayons d'essaimer nous aussi dans la société, n'est-ce pas, cher François? Donc, comment tu as réussi? Donc, tu as réussi de cette manière, en étant constant, respectueux.
Confiance, et puis bon, je connaissais un petit peu aussi, bon, comme je disais au tout début, j'ai 20 ans c'est d'établi, hein.
Oui.
Donc il y a certaines choses que je connais, hein. Je sais ce que c'est qu'un étolimeur, une fraiseuse, un tour, je sais ce que c'est que faire une queue d'aronde avec une lime, des gens, ils parlaient de ça, des fois, bon, ils disaient, tiens, tu connais, ben, j'ai dit oui, 20 ans j'étais à l'établi. Donc tout de suite, il y a des liens, c'est ce qui se créent, hein. Ils me connaissent. Hein.
Tu viens de leur milieu.
Voilà. Je connais, c'est leur milieu. C'est du milieu. Hein. Bon, après, bon, j'ai fait ma reconversion. Et puis, pour revenir, je change très rapidement aussi sur la suite des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de réflexions, surtout des femmes, disant j'y étais. Je pourrais regarder mes enfants ou mes petits-enfants en face. Ils me diront, mais toi, il y a quelques années, tu faisais quoi pour nous? Et je dis, ben, j'y étais. On n'est pas sûr de gagner, on va peut-être perdre, mais j'aurai la tête haute. J'ai mené un combat. J'ai mené le combat des Gilets jaunes contre un mieux social. Voilà. Donc, ça, ils ont une certaine fierté. Hein. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait.
Ils peuvent être fiers.
Oui.
Ils peuvent l'être. Et ce livre leur rend hommage. Et je pense que beaucoup vont l'acheter pour leur donner à leur entourage, pour montrer leur combat. Le cahier de vacances des Gilets jaunes a été très partagé, justement, parce que ça participe de
la visibilité.
Il y a très peu, d'ouvrages qui ont fait une visibilité des Gilets jaunes positive. Et donc ton ouvrage va faire partie, c'est une pierre. Ouais. Et il faudra remercier Yannick d'avoir eu la bonne idée.
Alors il
ne
faut pas que remercier Yannick, parce que Yannick est derrière ce micro, mais il n'est pas tout seul dans la maison d'édition à Despot. Je reprends ma casquette d'éditeur, et d'éditeur au pluriel, puisque moi, cette maison, on l'a créée et on l'anime à deux, avec Emmanuel Jay, qui fait un énorme travail pour faire... sur le livre de Serge, et puis pour faire vivre la maison d'édition et nos livres en général. Donc voilà, c'est moi qui parle aujourd'hui, mais ça aurait pu être elle. Voilà, et voilà, je tiens vraiment à dire que on est deux, c'est une petite maison, donc vous imaginez bien qu'on ne se verse pas de salaire ni de rémunération, tout ça coûte plutôt de l'argent que ça n'en rapporte, il faut, faut le dire.
Oui, mais avec les gilets jaunes, cet album, je pense que ça va rapporter.
Alors,
on va l'espérer.
L'idée, ça, c'est bien l'idée pour effectivement, pour nous, c'est pas que ça rapporte de l'argent, c'est que si ça finançait le prochain, ça serait bien. On a des beaux livres en catalogue.
Oui,
on
c'est
a
vrai que tu en
un
parles.
Excellent ouvrage aussi de Mathieu Colongane, un roman graphique sur la manif, cette circonstance aussi, qui s'appelle Manif. Voilà, Mathieu Colongane est un peintre, illustrateur, lui aussi très engagé, qui raconte à travers cet ouvrage ce qu'a été pour lui, on va dire, 25 ans de manifestation, le chronique avec énormément d'humour, c'est un très chouette livre. Tous ces livres, on peut les commander soit sur notre site internet adespot.com, soit évidemment en librairie, puisque depuis très récemment, nous sommes diffusés par Macassar, qui est une société de diffusion, et diffusée par un diffuseur militant qui s'appelle Obo, qui est très connu dans le milieu militant, qui représente beaucoup d'éditeurs dans la sphère de l'édition critique. Donc on a rejoint un peu cette famille-là, et on est très heureux. Et donc voilà, nos livres maintenant, vous les commandez en librairie. S'ils les ont pas sur leur table, vous n'hésitez pas à aller voir le libraire et dire voilà, je voudrais commander tel ouvrage. Et s'il y en a plusieurs à le commander, il va se dire tiens, je vais en commander plus et je vais le mettre sur la table.
Ainsi de suite, ça fera boule de neige.
Exactement.
Alors, il faut préciser que Publico, la librairie anarchiste, au 145 rue Amelot, aura dès le 25, le livre de Serge, donc, sur sa table. Et je ferai un plaisir de le vendre, puisque le 25, nous avons notre soirée sur les barrages. Puisque le 25, il y a la soirée de dédicace à la librairie Montandère.
Alors, à 19h30.
À 19h30. François me fait signe.
Ah oui, parce que je crois reconnaître Fred Alpine. Peut-être que je me plante.
Je ne connais pas le nom.
Ah, d'accord.
C'est un chanteur anarch.
C'est
connu.
Tu as toujours une guitare ?
On peut la décrire à la radio. C'est une photo assez rigolote où on voit face aux forces de l'ordre. Et visiblement, il y a eu les canons à eau parce que le sol est complètement.
Ah oui, il est complètement.
Un guitariste qui chante, un guitariste gilet jaune, donc avec son gilet jaune, qui seul se met face et avec sa guitare chante face aux forces de l'ordre. C'est tout à fait ce type de cliché que Serge saisit comme ça dans l'action.
Allende et Pinochet.
Tout à fait.
Je tiens aussi à remercier le travail de Yannick sur le travail de mes photos. Parce que je ne suis pas un as de la photo, le travail technique de la photo. Moi, je prends la photo, je prends les visages. Et Yannick a fait un énorme boulot pour retravailler les photos pour qu'ils puissent être édités.
Ce qu'on appelle la retouche.
La retouche,
c'est-à-dire l'étalonnage des photos.
Ouais.
Façon dont on retravaille ensuite, que le travail que font tous les photographes depuis toujours, qu'on faisait en photochimique avant, avec un retoucheur, là, on a des outils numériques. Et je dois confesser que j'ai fait une petite formation pour ça, l'occasion du livre, pour apprendre comment faire de la retouche. Je ne suis pas du tout devenu retoucheur professionnel, mais comme j'ai quand même une culture de l'image par mon métier par ailleurs, ça a été un grand plaisir de composer ce livre et de travailler sur les photos. Et je montrais l'avancement. Parce qu'on travaille, qu'on fait beaucoup le soir après le boulot, à Emmanuel, et on a avancé comme ça avec Emmanuel. Je lui montrais les photos, elle me corrigeait quand il fallait, elle me conseillait. Et puis c'est vrai que c'est un vrai livre de photos, et je pense qu'il y a une très grande cohérence. Et le travail de la retouche, il vise aussi à uniformiser l'ensemble des photos sur le livre, qu'il n'y ait pas de grandes variations de noir, de qualité des noirs, des lumières, des ciels, etc. Voilà, pour laisser vraiment voir le travail du photographe et l'œil du photographe. Ça, c'est ce que m'ont appris certains amis retoucheurs et photographes. On est content de ce travail.
Alors, je vous remercie d'être venu en parler, surtout qu'aujourd'hui, c'était le jour où sortait le livre. Je vous souhaite bon courage. Je rappelle que le 2 octobre, le 3 octobre la soirée avec le film de David Dufresne.
C'est le 2 octobre.
Le 2 octobre.
Ouais, je crois que c'est le 2 octobre, je regarde très rapidement.
Au 3 Luxembourg.
Au 3 Luxembourg.
À 20h.
À 20h, d'accord.
Exactement.
Un pays qui sortait un sage.
Un pays qui sortait un sage, une avant-première. avec un débat ensuite.
Et une vente de livres à la fin. Une petite table tenue par Emmanuel Jay.
Ils nous ont proposé d'avoir une petite table où on présentera le livre.
Voilà, et je rappelle que Raymond Macherel, lui, fait une souscription sur Kiss Kiss Bang Bang pour un moment sans retour. Aussi sur les Gilets jaunes, il a besoin de 25 000 euros. Alors, je vous remercie d'être venu, Serge, Yannick.
Merci à toi.
François, merci d'être venu m'aider. Alors, pour information, vous restez à l'antenne parce que pendant une heure, juste après cette émission, je reçois Thierry Gadot,